RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Le 1er juillet prochain, les plus grands cyclistes du monde entier prendront le départ du Tour de France. Les 176 coureurs vont parcourir les plus de 3404 km de cette compétition unique qui fêtera cet été ses 120 ans. Et c'est l'occasion de revenir ce matin sur son histoire, ses victoires et ses déboires. Mais avez-vous déjà entendu parler du Tour de France féminin? Eh bien lui, il se déroulera en 8 étapes et aura lieu pour sa deuxième édition fin juillet avec un objectif, valoriser la pratique de course cycliste par les femmes. Et c'est ce que vous entendrez dans la seconde partie de Je pense donc j'agis à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Que vous évoque le Tour de France? Est-ce que vous aimez regarder cette compétition? Quels sont vos champions préférés? Pourquoi vous fascine-t-elle d'ailleurs ou pas? Qu'est-ce qui vous gêne dans cet événement? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec Stéphanie Gallet, rédactrice en chef culture et société. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Le Tour de France, c'est la compétition de tous les records, et pas seulement sportifs. Hein. Son public se compte en millions. Ils sont très nombreux à se presser l'été au bord des routes. Ils sont encore plus nombreux derrière leur poste de télévision, puisque la Grande Boucle, hein, c'est l'épreuve sportive la plus suivie au monde après la Coupe du Monde de foot et les Jeux Olympiques. Cette année, vous l'avez dit, nous fêtons les 120 ans d'existence du Tour. Et dès la première édition, en juillet 1903, le Tour fut un succès populaire. Alors, son organisation ne fut jamais une sinécure, mais nous le verrons. Dès le premier tour, les essentiels du Tour sont esquissés. Exploits sportifs, célébration de la France, succès public et lien avec les médias. Au fil des années, le cyclisme a bien changé, le Tour aussi, mais l'engouement ne se dément pas. Pourtant, des ombres au tableau, il y en a. Le dopage, l'empreinte écologique, l'absence des femmes et le formatage d'une compétition au profit d'intérêts parfois bien éloignés du sport. Des reproches plus ou moins pris en compte au fil des éditions. La caravane et le peloton sont depuis le début le lieu de nombreux scandales et de polémiques, mais chaque année, les forçats de la route, sprinteurs comme grimpeurs, se remettent en selle. La France est belle, le public attend. Pas question de gâcher la fête.
Et pour en discuter, Stéphanie, jusqu'à 10h, on a le plaisir d'accueillir ce matin deux invités.
Oui, Jean-Paul Vespini, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une référence en matière de cyclisme, vous êtes écrivain, journaliste sportif, vous êtes une des grands noms du journalisme cycliste, héritier d'une longue tradition. On ne citera qu'Antoine Blodin qui raconta pendant des années le Tour de France au sein de Libération. Vous avez une dizaine de livres à votre actif, j'en citerai deux. 1903, le premier Tour de France, et c'est le livre qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Et puis un autre, mais il y en a d'autres, hein. Les 60 Tours de France de Raymond Poulidor, tous les deux aux éditions Mareuil. Et puis, on m'a chuchoté que vous prépariez un livre sur Émile Zola, bicycliste passionné. On espère qu'il sortira bientôt. Un petit mot sur Émile Zola et le vélo?
Oui, à ma grande surprise, mes recherches m'ont fait découvrir qu'Émile Zola était un cycliste passionné et un pratiquant assidu. C'est totalement méconnu, bien sûr, et c'est même surprenant parce que l'écrivain que l'on imagine assis à son bureau avec un ventre et des tremblements, c'est pas celui qu'on voit sur la bicyclette. Mais bon, c'était pour lui aussi un art de vivre, et je raconte tout cela dans un manuscrit. Surprenant, le bicycliste enragé Émile Zola qui déclare notamment « Si j'avais été plus jeune, j'aurais aimé être un champion ». Bref, c'est une superbe histoire et je pense qu'elle étonnera beaucoup de personnes.
Et on a hâte de la lire. Merci beaucoup Jean-Paul Vespini d'être avec nous ce matin. Gaël Guéguen, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour Melchior.
Bonjour.
Ce n'est pas vous faire affront de dire que vous êtes un petit peu moins connu que Jean-Paul Vespini dans le monde du cyclisme, mais vous êtes quand même un passionné de cyclisme. Vous êtes professeur en stratégie et entrepreneuriat à l'école TBS Éducation. C'est à Toulouse, hein, c'est une école supérieure. On peut lire vos articles sur le site de The Conversation. Le lien entre la stratégie, l'entrepreneuriat et le cyclisme? Aucun moi, ou quand même.
Ah, si, beaucoup, beaucoup. Pour moi, si je dois définir ce qu'est le cyclisme au niveau professionnel, c'est une dimension de stratégie qui apparaît. Pourquoi c'est de la stratégie? Parce qu'on va avoir un plan à relative moyen terme, on va disposer d'un ensemble de ressources, on va essayer de les coordonner. Dans les équipes cyclistes, il y a une structuration très précise des tâches. Et il y a aussi une dimension d'entrepreneuriat dans le cyclisme. L'entrepreneuriat, c'est quand vous projetez vers un futur sans pour autant totalement disposer des ressources en amont. Et des fois, on a des tentatives, des coups de poker qui sont tentés. Le cyclisme, pour moi, c'est la stratégie de l'entrepreneuriat.
Bon, une petite question avant de vous redonner la parole, Melchior. J'aurais posé à mes deux invités, qu'est-ce qui les passionne, qu'est-ce qui les fascine dans le cyclisme? Gaël Guéguen.
Il y a plusieurs choses. Les aspects stratégiques ont été évoqués à l'instant. Mais moi, l'une des choses qui m'intéresse le plus aussi dans le cyclisme... Alors, je ferai une distinction entre qu'est-ce qui peut passionner un Tour de France et qu'est-ce qui peut passionner à travers le cyclisme professionnel. Peu avant la prise d'antenne, quand Melchior a interrogé votre journaliste, quand il lui a demandé « Vous suivez le Tour de France ?», il a dit « Oui, je m'en rappelle, je suivais ça avec mon grand-père quand j'étais petit ». Bah, moi aussi, et j'imagine que vous aussi. Il y a cette dimension d'histoire, de lien. Ça me fait un peu penser à Madeleine de Proust. On pense à des moments et ces moments se répètent, ils évoluent, ils sont différents. Mais ces moments sont importants parce que pour moi, ils forgent une dimension de proximité. Le Tour de France, c'est un sport hautement lié à la proximité et qui touche les sens. Quand vous regardez une étape, vous voyez les gens autour. Dans aucun autre sport, vous pouvez avoir cette proximité du public. Il y a une proximité de sens car si vous avez eu la chance, et je vous recommande, ceux qui ne l'auraient fait, d'aller assister à une étape du Tour de France, vous attendez, il y a la caravane, il se passe plein de choses. Et à un moment, vous allez entendre un bruit. Ce bruit, c'est l'hélicoptère de France Télévisions et vous savez que dans les 5-10 minutes, les coureurs vont arriver. Et à partir de ce moment, de cette écoute de l'hélicoptère, vous rentrez dans le Tour de France. Vous êtes le Tour de France. Et c'est ceci qui, moi, je trouve, est particulièrement intéressant.
Et vous, Jean-Paul Vespini?
Ouais, qu'est-ce qui vous fascine?
Jean-Paul Vespini qui ne nous emporte... n'entend peut-être pas, on va le retrouver dans un instant.
Je crois qu'il est avec nous. Allez-y Jean-Paul Vespini.
Non, Jean-Paul qui nous entend pas. On va se reconnecter avec lui. Alors ça me permet de vous dire et de vous rappeler qu'on parle du Tour de France hein, ce matin. On fête les 120 ans de cette grande compétition. Et vous avez de quoi en témoigner. Hein. Que vous évoque cette compétition? Est-ce que vous aimez la regarder? Est-ce qu'elle vous rappelle peut-être un peu de nostalgie quand vous étiez enfant? Et pourquoi ça vous fascine d'ailleurs? Ou pas, dites-nous, peut-être que c'est une compétition qui vous gêne, un événement que vous n'appréciez pas. On a envie de savoir pourquoi. 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis, Stéphanie, ce qui est sûr, 120 ans de compétition, ça en fait des histoires.
Ouais, alors je voulais voir si on avait retrouvé Jean-Paul Vespini. Est-ce que vous nous entendez, Jean-Paul Vespini? Non, pas encore. Bon, alors peut-être, parce que je voulais lui demander de nous raconter l'édition de cette année, mais peut-être que vous avez quelque chose à nous faire entendre, Melchior.
Oui, tout à fait. C'est la bande-annonce d'une série Netflix qui est sortie il y a quelques jours. Je pense que Gaël Guéguen, vous l'avez déjà regardé. Une série qui nous emmène dans les coulisses du Tour de France 2022. On écoute quelques secondes.
Le Tour de France, c'est très simple. C'est une course de vélo, chaque jour, pour 21 étapes.
Si vous êtes capable d'aller plus loin dans la souffrance et dans le sacrifice, vous avez peut-être une chance... de gagner.
Gaël Guéguen, cette série, je crois qu'elle fait 8 épisodes. Vous l'avez regardée?
Oui, tout à fait. Je l'ai regardée. Très intéressante. Alors le but, indéniablement, c'est d'être dans une situation de démocratiser le vélo, le cyclisme. C'est quelque chose de complexe parce que en première lecture, c'est on voit des gars qui courent les uns après les autres, le premier qui franchit la ligne, il a gagné, ça tout le monde le comprend, mais pour y arriver, pour avoir quelqu'un qui soit le premier à franchir la ligne, il y a toute une organisation, toute une logique de mise à disposition, de sacrifice qui doit exister. Et la série Netflix permet de faire comprendre ces éléments au plus grand nombre, donc je lui trouve un intérêt assez majeur.
Il y a aussi un intérêt économique pour France Télévisions, puisque vous pouvez peut-être nous le rappeler, vous le professeur demain.
Tout à fait. Bah, Pour moi, c'est une logique de coopétition. La coopétition, c'est quand vous associez de la coopération avec vos concurrents. Netflix, c'est le concurrent, dans une certaine mesure, de France Télévisions. Quand je regarde Netflix, je ne regarde pas France Télévisions. Et là, il y a une mise à disposition des images, il y a un travail qui est fait, et chacun va y gagner, parce que grâce à la qualité des images, bah, Netflix peut faire un documentaire en immersion qui va être intéressant. Netflix touche une population peut-être un peu plus jeune que la population classique des spectateurs du Tour de France, donc ils vont aller regarder le Tour de France sur France Télévisions, et donc ça peut être un cycle vertueux qui va se mettre en œuvre. Alors peut-être qu'on en discutera par la suite, mais aussi dans les évolution du cyclisme, il y a une logique en termes de cibles, de personnes touchées, que cela soit en termes d'âge, que ce soit en termes de catégories socio-professionnelles, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça et ces évolutions actuelles.
Jean-Paul Vespini, je suis contente de vous retrouver. Peut-être juste pour qu'on continue de faire connaissance avec nous, redites-nous ou dites-nous pourquoi vous êtes un fondu de cyclisme.
Pour beaucoup de personnes, pour moi c'est la même chose, ça remonte à l'enfance. C'est-à-dire que les premières images de cyclisme que j'ai vues m'ont fait comprendre que c'était un sport merveilleux qui permettait l'indépendance, l'affirmation de soi et le fait de pouvoir aller au-delà de ses limites. Et donc ce dépassement de soi, en quelque sorte, rejoint un peu le dépassement de soi de tous les champions, puisque c'est quand même ce qu'ils font. Et voilà, tout s'est mélangé, à la fois la passion du vélo, un petit enfant qui a envie d'indépendance, et puis la grandeur et l'admiration pour les champions qui mettent en pratique tout cela. Vous savez, j'ai retrouvé un petit texte très court de l'italien écrivain Dino Buzzati, qui disait tout, il avait écrit une très belle chronique à propos du Tour d'Italie et se demandait, mais qu'est-ce qu'ils font ces champions, pourquoi ils pédalent? Alors il répondait, ils pédalent pour l'idée. Regardez-les, tandis qu'ils pédalent parmi les champs, les collines et les forêts, ce sont des pèlerins en route pour une cité très lointaine, mais qu'ils n'atteindront jamais. Ils symbolisent en chair et en os, comme dans le tableau de quelques peintres d'autrefois, l'incompréhensible aventure de la vie. Mais voilà, je crois que c'est tout ça. Le Tour de France, c'est un peu la vie qui se déroule sous le pas de notre porte.
Jean-Paul Vespini, vous êtes un spécialiste de l'histoire du cyclisme et du Tour de France. Je voudrais que vous nous racontiez, alors c'est l'objet d'un de vos livres, donc on en pourrait y en passer des heures, hein, faire une série entière sur l'histoire du Tour de France, mais et même du premier Tour de France. Nous sommes en 1903, le premier Tour de France va partir le 1er juillet. Quel est le contexte à l'époque? Qu'en est-il du vélo et du cyclisme en 1903, au début du siècle?
Eh bien, c'est très simple. Le vélo, bien évidemment, il en était à ses tout petits premiers balbutiements. On ne parlait que de la piste et des pistards. Les coureurs sur route étaient très peu nombreux. Il y avait très peu d'épreuves. Ils étaient considérés comme des coureurs crottés, comme des sales. Enfin, ça n'avait rien à voir avec l'aura des pistards. Mais petit à petit était en route l'idée de faire sortir les coureurs du vélodrome, de les libérer de leur cage. Et donc, à l'origine, bon, c'est un peu une histoire économique, le journal Lotto a voulu créer le Tour de France pour augmenter ses ventes, pour faire en sorte que des lecteurs puissent venir. Et le Tour, donc, s'est créé au départ dans le berceau médiatique, c'est-à-dire que Lotto espérait que les lecteurs viendraient acheter son journal, ce qui n'a pas ça a été le cas, mais pas forcément. Mais s'est heurté très vite à des problèmes d'organisation, parce que en France, eh bien, dans les provinces, personne ne savait ce que c'était que des cyclistes. Le vélo, c'était encore quelque chose de très peu répandu, sauf dans l'aristocratie et chez les gens qui faisaient du sport pour être bien dans leur tête et dans leur peau. Donc la première étape, la seconde étape, il y avait 6 étapes. Ça a été chaque jour pour l'organisateur et notamment pour Henri Desgranges qui était le rédacteur en chef. Ça a été chaque jour une épreuve et chaque jour aussi il changeait un peu son règlement. Alors pour donner l'ambiance, eh bien ils sont 60 coureurs à partir. Parmi les 60 coureurs, il y a très peu de champions. Le grand champion, c'est Maurice Garin qui est le champion du début du siècle et qui a été le premier à s'inscrire, à s'engager parce que lui, alors, il était motivé pour gagner le Tour. en grande épreuve, parce que la grande différence avec les pistards, c'était la question de l'endurance. Faire partir des coureurs pendant 15 jours, puisque ça durait 15 jours, sur 2000 et quelques kilomètres, sur des vélos dont on ne savait même pas s'ils allaient tenir le coup, ça c'était la grande nouveauté. Nouveauté de la robustesse de l'organisme de l'homme et de la solidité de la bicyclette. Et donc, le tour s'était lancé comme ça, mais il y avait beaucoup de gens qui n'avaient jamais fait de vélo, ou très peu. Il y avait des gens qui se sont lancés dans le premier Tour de France avec le rêve de devenir riche, ce qui était une illusion, parce qu'ils ont couru à la fin du tour, tout le monde s'en rendra compte, pour 20 centimes par kilomètre. C'était une illusion, mais c'était un rêve aussi, et je rejoins là l'idée première que je développais tout à l'heure, cette idée de grandeur de soi, de dire d'accomplissement, de dire on va faire quelque chose qui n'est pas ordinaire. Ils sont partis la fleur au fusil autour de France comme d'autres, pardonnez-moi l'expression, partaient à la guerre. Ils ne savaient pas où ils allaient. Voilà, c'est ça la véritable expression. Alors là-dedans, il y a de formidables anecdotes. Bon, je ne veux pas être trop long ou raconter tout ça, mais ce sont des anecdotes humaines, parce que il y a des gens qui ont essayé de tricher, parce qu'ils se disaient, puisqu'on prend le départ du tour, eh bien tous les moyens sont permis. Donc l'organisateur était à l'affût de surprendre des tricheurs, et il y a eu des cas. Et puis aussi, eh bien, il fallait lutter contre les ententes, parce que la grande idée du Tour de France, du premier Tour de France, et c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, le Tour, quelquefois, nous ennuie un peu, pas toujours, bien heureusement, c'est que le Tour de France, à l'époque, était une épreuve individuelle. Il était absolument interdit que des coureurs s'entraident, et bien évidemment que ce soit des coureurs d'une même équipe ou des coureurs d'équipes différentes. L'entraide était complètement interdite, c'était chacun pour soi, chacun sa peau, et ce fait d'être lancé tout seul dans la grande aventure faisait que la bataille était en permanence sur la route. Voilà, je vais être un peu bref, j'attends vos questions parce que sinon je vais monopoliser la parole.
Voilà, Jean-Paul Vespigny, à quoi ressemblaient les vélos en 1903 ?
C'était des vélos qui n'étaient pas si lourds que ça finalement, hein. Ils pesaient entre 16 et on va dire 20 kilos. La chose surprenante, c'est que beaucoup de vélos, pour pas dire tous les vélos, n'avaient pas de frein, puisqu'on freinait par rétro-pédalage. Et puis c'était donc il y avait des jantes en bois, hein, il y avait des pneus, c'était le tout début, hein, des pneus, mais c'était des vélos qui permettaient quand même de faire de la distance, puisque existait déjà avant le Tour de France une grande épreuve qui s'appelait Paris-Brest-Paris, qui faisait 1200 km, que Maurice Garin avait gagné, et qui avait été lancé à l'époque uniquement dans le but de montrer la solidité des vélos. Donc voilà, c'était quand même pas facile de descendre avec des vélos pareils, parce qu'on était emporté par le rythme, les jambes devaient essayer de freiner par le pédalage, et tout ça était assez compliqué.
Geneviève nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Geneviève.
Ah bonjour Macœur.
On vous écoute, allez-y.
Alors, moi, j'ai 94 ans. Alors, j'étais à l'arrivée d'une étape du Tour de France à Cannes-la-Bocca en 35 ou 36. J'étais pas haute, mon père me traînait partout, à toutes
les étapes.
Les étapes, oh non, simplement, à cette époque-là, on se déplaçait pas comme ça, hein. Mais c'était, je me rappelle de ce gars qui est arrivé sale, mais sale, plein de boue et tout ça. Et il avait des lunettes comme vous savez, ceux qui avaient qui étaient dans les voitures, là, pour éviter le vent. Et puis, il avait les boyaux autour des épaules, parce qu'à cette époque-là, il se débrouillait tout seul, hein, il n'y avait pas de dépannage. Et puis après, on a toujours suivi ça parce que à la radio. Et puis après, moi, quand on a eu la télévision, alors là, c'était fan à tout craint. Moi, je suis toutes les étapes du Tour de France. J'aime le Tour de France parce que c'est une chose formidable. Et puis en plus de ça, on suit non seulement les coureurs, mais toute la France. La belle France avec toutes les explications des de ceux qui qui travaille avec le Tour de France pour nous expliquer les châteaux, les différentes choses, de les beautés de la France, quoi. Mais c'est vraiment superbe.
Eh ben merci Geneviève, vous venez de faire toute l'émission. Mais c'est vraiment, je trouve ça mignon cette nostalgie, Jean-Paul Vespini, et puis on se rend compte à quel point c'est une compétition certes qui est basée autour du vélo, qui a pas beaucoup évolué, mais tout ce qui tourne autour a énormément évolué depuis les années 1935, les années de Geneviève. Jean-Paul Vespini.
Oui, bien sûr, ça a beaucoup évolué, mais vous voyez, ce qui est fort, c'est quand même cette dame qui est admirable. Ce sont les souvenirs. Et encore une fois, on revient au tout début, ce qu'on disait. Votre journaliste parlait de souvenirs avec son grand-père. Je crois que le Tour marque l'enfance, en fait. Et il nous marque, sans exagérer, un peu pour toujours. Le témoignage de votre auditrice me fait penser à un souvenir que m'avait raconté Louis Nucera. Vous savez, le grand écrivain niçois. Eh bien, il m'avait dit que, justement, lors d'une arrivée du Tour de France, à Cannes ou à Nice, il était sur les épaules de son grand-père, vous voyez, on y revient, et c'est comme ça que la passion du vélo, et ensuite de l'écriture, parce que je pense quand même que les deux sont assez liés, on pourrait en parler, et bien c'est comme ça que Louis Nucera a pris conscience de sa passion. Et pour revenir à votre question, oui, le Tour a évolué, parce que maintenant c'est une machine de guerre, c'est une machine formidable, et bravo aux organisateurs d'arriver...
On reviendra peut-être, Jean-Paul Vespini, sur les évolutions du Tour, mais je voudrais faire réagir Gaël Guéguen. On a utilisé le mot de nostalgie. J'ai l'impression qu'il n'y a que dans le cyclisme où il y a autant ce goût de la nostalgie. On ne retrouve pas ça dans le foot, on ne retrouve pas ça dans le tennis. Comment ça se fait ?
Alors, sur l'explication, d'abord quelques faits qui nous prouvent que vous avez effectivement cette notion de nostalgie qui apparaît. Moi, il y a une chose qui me marque. Si vous regardez le maillot jaune, là, en 2023, vous regarderez bien le maillot jaune, et sur ce maillot jaune, vous verrez deux initiales. HD, Henri Desgranges. Jean-Paul Vespini en a parlé précédemment, c'est celui qui a pensé le Tour de France 120 ans en arrière. On est dans une logique où 120 ans après, on va laisser les initiales de l'initiateur sur le maillot. Quand vous regardez le Tour de France, en fonction du parcours, il y a tout le temps un rapport à l'histoire du Tour. Par exemple, cette année, vous allez avoir une étape qui va arriver au Puy de Dôme. 1964, Anquetil, Puy d'Or, pour certains auditeurs peut-être qui s'en rappellent, cette montée au coude à coude. Donc effectivement, on est dans une logique où il y a toujours cette référence au passé qui existe, mais cette référence, c'est une référence qui nous permet de voir et de comprendre les exploits passés pour mieux apprécier les exploits présents. Après, sur cette dimension,
c'est pas du c'était mieux avant. C'est pas du
non,
c'était mieux
non,
avant.
Non, je ne pense pas. Non. Ce n'est pas dans cette logique du c'était mieux avant. Simplement, on a mémoire, comme vous rappelez de vos parents. C'est pas pour autant que vous pensez que vous êtes que vos parents étaient mieux que vous présentement. C'est dans cette logique. Et aussi, à partir du moment où le Tour de France touche une population où, en termes d'âge, il y a une certaine amplitude. Pour preuve, Geneviève qui vient d'intervenir avec 94 ans. On est dans une logique où ce passé, on peut toujours l'activer parce que c'est cette dimension mémorielle qui est importante, le souvenir, cette dimension de ressort de l'âme qui nous fait penser quand on était enfant, quand on était plus grand, etc., etc. Donc je pense que c'est un élément important, ce souvenir du passé, pour aller mieux vers l'avant.
Et alors vous avez parlé de mémoriel, on a entendu Geneviève, il y a aussi ce rapport à la France, et là aussi on est pas la nostalgie, mais dans la valorisation d'un patrimoine qui est de toute éternité.
Tout à fait. Pour moi, le Tour de France, c'est de l'histoire-géographie. L'histoire, on en a parlé. La géographie, on va forcément l'aborder présentement. On va dans différents lieux. On passe à travers de magnifiques paysages. On voit la richesse architecturale de la France. Mais dites-vous bien que moi, je suis le cyclisme actuel au-delà du Tour de France. L'équivalent est identique dans les autres contrées où une épreuve cycliste se donne. Actuellement, c'est le Tour de Suisse, c'est le Tour de Slovénie. Les images, la mise en valeur du patrimoine est un élément important.
Jean-Paul Vespini, est-ce que quel sportif était ses premiers champions du Tour de France ?
Eh bien, comme je vous disais, à part Maurice Garin et deux ou trois autres champions, c'était des amateurs. C'est-à-dire que, prenons un exemple, par exemple, il y avait celui que l'on surnommait le forgeron de Grisolles. qui s'appelait Jean d'Argassier, et qui habitait, donc, comme son nom l'indique, tout près de Toulouse, Montauban, eh bien, lui, il n'avait jamais entendu parler du Tour de France. Un matin, il se lève, il était forgeron, il ne voyait que la forge et la flamme. Un matin, il se lève, il prend l'auto, et il s'aperçoit qu'on lance le Tour de France. Il se dit, tiens, ça changerait ma vie. Il va voir son vétérinaire, il lui dit « Est-ce que tu veux m'entraîner ?» Oui, et il fait pendant un mois ou deux mois le parcours Montauban-Toulouse, ce qui n'est pas grand-chose, pour s'entraîner. Et puis il monte à Paris, il débarque là-haut et les organisateurs lui disent « Mais qui êtes-vous » Il dit « Je suis Grisole de Montauban », en parlant avec son accent. Et ça va être la vedette, la grande star de ce Tour de France, parce qu'il fera rire tout le monde. Il avait des expressions formidables. Il disait « Les côtes montaient tellement que dans les virages, je touchais la terre avec les mains. » C'était un personnage truculent. Mais il y en avait d'autres comme ça. Il y avait celui qu'on surnommait le menuisier volant, parce que les surnoms faisaient allusion au métier de ces hommes qui n'étaient pas des cyclistes. Alors, comme il baladait dans Paris avec son établi sur le dos, on l'avait surnommé le menuisier volant. Un autre était boucher, on l'appelait le boucher de Sens, parce qu'il habitait Sens. Voyez, mais ces gens-là sont venus comme ça. Ils se sont entraînés en faisant quelques kilomètres. Jamais la plupart des coureurs qui se sont lancés dans le Tour de France 903, le premier tour, jamais ils n'avaient fait au-delà de 80 ou 100 kilomètres. Et c'est en cela que c'est surprenant et beau, parce qu'ils se sont lancés là-dedans et finalement, ils ont réussi à boucler le tour avec, pour certains, beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes et de malheurs.
Le Tour de France qui fête cette année ses 120 ans. On en discute ce matin dans Je pense donc j'agis. Vous faites comme Geneviève. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23 pour nous dire en quoi c'est une compétition qui vous fascine et pourquoi vous aimez la regarder. Ou alors pas du tout, hein. Peut-être que c'est une compétition que vous n'aimez pas, qui vous dérange. Et ça, il y a de quoi dire également. On en parlera dans quelques minutes. 04 72 38 20 23. Allez, je vais vous proposer un peu de nostalgie en musique avec un groupe électronique allemand que vous connaissez peut-être, Kraftwerk, dont les membres du groupe, notamment Ralf Hütter et Florian Schneider, étaient fans du Tour de France et donc ils ont composé cette musique électronique. Ça change un petit peu sur RCF. On écoute, on se retrouve après. Voilà, Kraftwerk, Tour de France. Ah, ça a quelques années, mais ça ressemble un peu à Jean-Michel Jarre.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Stéphanie Gallet.
Et nos deux invités jusqu'à 10h, Jean-Paul Vespini, écrivain et journaliste sportif, et puis Gaël Guéguen, professeur en stratégie et entrepreneuriat à l'école TBS Éducation à Toulouse, passionné de cyclisme, et on peut lire vos articles sur le site Conversation. On continue, Stéphanie, de parler du Tour de France, hein, puisque cette année on célèbre les 120 ans de cette compétition.
Oui, ben je voulais savoir qu'est-ce qui avait changé pendant ces 120 années. Hein, c'est quand même pas anodin. Comment est-ce qu'on est passé de Maurice Garin, comment on prononce le champion de l'année dernière, Jean-Paul Vespini, Jonas
Van Gogh.
Vous parlez de Vingegaard. Ah, Vingegaard, pardon.
Vingegaard. Okay.
Voilà. Donc comment est-ce qu'on est passé de Maurice Garin à Vingegaard? Qu'est-ce qui a changé entre ces deux hommes? Quelles sont peut-être les grandes étapes du Tour de France?
C'est moi qui commence ?
Allez-y, bah oui.
Oui, bon, bah écoutez, je pense que les grandes étapes, déjà, sur le plan du matériel, bien sûr, les vélos ont changé. L'assistance a changé, puisque maintenant, eh bien, les coureurs...
Ils ont des oreillettes ?
Oui, alors ça, c'est le grand sujet qui fâche, parce que, personnellement, les oreillettes, je suis totalement contre. On peut invoquer tout ce qu'on veut, la sécurité, autre chose. Moi, je pense que le coureur, c'est lui qui doit décider. C'est lui qui doit décider quand est-ce qu'il doit attaquer, s'il a envie, pas envie. C'est pas le directeur sportif. Et ça, on revient aux origines. C'est le coureur. Le directeur sportif est là pour conseiller, pour éventuellement freiner son coureur s'il est trop dans l'offensive, mais c'est le coureur qui sait. C'est ce que pensait Bernard Hinault d'ailleurs, hein. Combien de fois il a désobéi à Cyril Guimard, et c'est comme ça qu'il a gagné d'ailleurs Liège-Bastogne-Liège. C'est le coureur qui doit décider. Ça, c'était une parenthèse. Ce qui a changé, au-delà du matériel, bien sûr, c'est l'entraînement. C'est la préparation physique. Ces coureurs maintenant sont au top. Ce sont de formidables machines. Les exploits qu'ils accomplissent et le rythme sur lequel ils arrivent au pied des montagnes nous font voir qu'ils sont super entraînés. Tout ça, bien sûr, a changé. Ça n'a rien à voir avec les moyennes du premier tour, ou encore moins les moyennes des années 60. Et pourtant, il y avait de beaux champions. Hein, on revient à Anquetil, Poulidor. Mais combien de fois Poulidor m'a dit si je devais être dans le peloton actuellement, ça serait compliqué parce que les entraînements, la préparation, tout cela est complètement différent. Je crois que c'est surtout ça. Enfin, on va demander à Gaël ce qu'il en pense, mais je pense que pour moi, le grand changement, c'est la préparation des athlètes qui est devenue une préparation au top. Je pense qu'on peut dire ça.
Gaël Guéguen, vous êtes d'accord? C'est d'abord et avant tout la préparation des athlètes qui a changé pendant toutes
oui,
ces années?
Oui, c'est important. Alors, si je veux faire un petit trait d'humour... vous évoquiez Jonas Vingegaard, qui est le vainqueur sortant du Tour de France. Quelque part, il a une histoire au premier cycliste hein, du Tour de France, forgeron, menuisier ou autre. Parce que dites-vous bien qu'il y a 5 ans en arrière, il travaillait dans une usine de traitement de poissons.
Vingegaard, le dernier champion.
Ah oui. Il était dans une logique où, en fait, il avait du talent, mais ça s'était pas suffisamment exprimé. Il doutait, donc il avait trouvé un travail au Danemark, dans une poissonnerie industrielle. Et 4 ans plus tard, il gagne le Tour de France. Donc vous voyez, on retrouve toujours un peu, de temps en temps, des trajectoires. Mais à côté d'un Vingegaard, je vais citer deux autres noms qui vont sûrement parler à vos auditeurs, notamment le premier, c'est Mathieu Van Der Poel, qui est le petit-fils de Raymond Poulidor, Wout Van Aert, un Belge, ils sont très très forts, et eux, depuis, je sais pas moi, peut-être qu'ils ont 10 ans, ils font du vélo, et depuis l'âge de 14-15 ans, ils sont programmés pour devenir les champions qui sont aujourd'hui. Donc on a une multiplicité de trajectoires. En effet, comme l'évoquait Jean-Paul, il y a des évolutions à différents niveaux. Dites-vous bien que aujourd'hui, on est en train de réfléchir à des moyens de ralentir les vélos, parce que la crainte, c'est que les cyclistes, ils vont beaucoup trop vite, notamment dans les descentes. Ils ont du matériel qui est pas toujours très simple, notamment pour le contre-la-montre, où l'agilité dessus est très compliquée. Donc il y a des réflexions par rapport à ça pour éviter.
On veut les ralentir parce que ça va trop vite par rapport à la caméra.
Bien sûr. Vous savez, c'était José Assunpeter qui disait, pas par rapport à la caméra, mais Joseph Schumpeter, il disait, c'est parce que on a inventé les freins qu'on peut aller vite. Le problème, dites-vous bien, à votre avis, à quelle vitesse ils descendent de l'école du Tour de France, Stéphanie? Est-ce que vous pourriez vous prononcer là-dessus?
Non, j'ai aucune idée. Je ne me prononce surtout pas. Vas-y.
La vitesse quand ils descendent.
Ouais. Oh, bon, combien ils peuvent monter?
Oh, 120.
Alors, un peu moins 100, 110, mais c'est quand même déjà,
pas loin.
C'est déjà pas mal. Mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est pas tant la vitesse qu'ils vont avoir en descente, c'est la vitesse qu'ils vont avoir à l'approche d'un sprint. Ils vont monter à des vitesses tout plat, à 70, 80 km/h, à la seule force de leurs jambes. Donc effectivement, on est dans une logique où c'est potentiellement un danger, mais il y a ces dimensions technologiques qui sont majeures. Chaque année, il y a son lot un peu, on va dire, d'innovations technologiques. Mais effectivement, la préparation, c'est quelque chose qui est devenu excessivement important. Préparation
mais
mentale,
Gael Gegen,
préparation
j'ai pas compris.
Nutritionnelle.
Oui. Gael Gegen, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'il faut les ralentir?
Ben, s'ils ont un accident. En descente.
Donc c'est des questions de sécurité quand même.
Ah, bien sûr. Et là aussi, sur la sécurité, le cycliste, quelqu'un qui est assez démuni, il a un casque et c'est tout. C'est sa seule protection lors d'une chute. Et malheureusement, le Tour de France, c'est beaucoup d'imprévus, d'incertitudes, parce qu'il y a ces satanées chutes qui vont intervenir, qui peuvent mettre sur la touche un coureur qui pourtant était destiné à occuper les premières places. Et donc, si je reviens sur ces histoires de préparation, on est dans des logiques où maintenant, pour préparer un Tour de France, le coureur, il va entamer un régime, 6 mois, déjà qu'il n'est pas très gros, il va entamer un régime très spécifique pour obtenir le poids de forme maximal à un certain moment donné. Il y a des dimensions psychologiques aussi qui sont très importantes. On est dans une professionnalisation très très forte de l'épreuve cycliste. Il y a bien longtemps en arrière, lors d'un stage d'entraînement d'une équipe de Cyril Guimard où il y avait Laurent Fignon et Bernard Hinault, Bernard Hinault râlait parce que sur les premières sorties d'entraînement, ça devait être j'imagine en février, il râlait parce que ça allait trop vite. Et Laurent Fignon lui a répondu, tu n'as qu'à t'entraîner pendant l'hiver. En d'autres termes, Bernard Hinault, le champion qu'il était, pendant 3 mois, il était un peu en dilettantisme par rapport à la chose cycliste. Il ne se mettait véritablement en action que quand les courses apparaissaient. De nos jours, on voit plus de comportements de ce type. C'est un comportement professionnel irréprochable par rapport à ce vélo. C'est une passion. L'origine étymologique de la passion, c'est la souffrance. On est dans cette logique de souffrance pour pouvoir exercer ce sport.
Jean-Paul Vespini, je vous voyais sourire par la caméra quand Gael Gegen évoquait le régime alimentaire. Il s'agit plus de manger un plat
oui,
de pâtes une heure avant.
Il a tout à fait raison, bien sûr. Mais ils sont maigres, les coureurs. Ils sont très maigres. Ouais. Et on est surpris, lorsqu'on les approche de près, de voir la musculature fine, étirée, et de comprendre qu'il y a tant de force dans ces muscles qui sont si fins. On n'est plus dans les années 60, même 70, même dans les années Merckx. Ils font attention à ce qu'ils mangent. Ils pèsent et sous-pèsent tout. C'est du professionnalisme, mené à son extrême. Il y a un gros changement aussi, c'est dans le nombre de courses qui sont disputées dans l'année par les coureurs. Autrefois, et même dans les années, les dernières années, on disputait beaucoup de courses avant de s'engager dans le Tour de France. Aujourd'hui, le Tour de France est l'épreuve principale. Tout tourne autour du Tour de France dès le début de la saison. Et d'ailleurs, dès les premières épreuves, nous autres, les journalistes, nous commençons à dire « Mais sera-t-il prêt pour le Tour de France ?» alors que c'est bientôt, bien trop tôt. Et cette différence-là fait que les coureurs arrivent bien préparés donc, par l'entraînement, c'est ce que nous disions, mais aussi moins amochés parce qu'ils ont fait moins de compétitions. Et les rares compétitions auxquelles ils s'engagent sont là uniquement pour valider le programme d'entraînement qu'ils ont fait auparavant. Voilà. Et donc, de suivre une courbe ascendante pour arriver au départ du tour, avec encore une marge de progression pour être sûr, la troisième semaine du tour, d'être au top, parce que c'est une question de stratégie, de préparation physique, en fait. Il ne faut pas être prêt trop tôt, sinon, la dernière semaine, on craque. Et tout ça, eh bien, c'est scientifique. C'est une totale différence avec le cyclisme, pardonnez-moi l'expression, que j'ai connu au temps de mon enfance, même si elle n'est pas très très vieille.
René nous a rejoint sur RCF. Bonjour René.
Bonjour, Oui, voilà, moi je voulais témoigner, j'habitais Nieul-sur-Mer, je devais avoir une dizaine d'années, et on allait dans le village plus loin avec mon père, voir à Saint-Sambre, et ce qui m'avait impressionné, c'était des gardes républicains debout sur la selle de la moto, les bras tendus. Voilà. Et puis, je voudrais rendre un hommage aussi à mon ami Eric Fotorino, parce qu'il habitait en face de chez moi à l'époque. Son papa m'avait demandé de l'emmener. Alors j'avais emmené au cyclo, puis après lui, il a rejoint en FFC le club VC Châtelaillon-Étré. Et après moi, avoir arrêté par Brest-Paris, j'ai rejoint en 76. Voilà. Et puis après, Monsieur Mallet, président du club, eh ben, j'ai eu ma place 30 ans à la mairie d'Étré. Voilà. Voilà. Alors, je voulais faire un hommage à Eric.
À Eric Fotorino, qu'on a essayé de joindre pour cette émission. Merci beaucoup, René, de nous avoir parlé là aussi de ses souvenirs et notamment cette garde républicaine debout sur les motos. Ça devait être impressionnant à voir. On entend, Stéphanie, voilà, beaucoup de nostalgie, c'est vrai, ouais, depuis le début de cette émission.
Gaël Guéguen, j'aimerais maintenant qu'on parle du Tour de France. Qu'est-ce qui a changé dans l'organisation, dans l'image du Tour de France toutes ces années? C'est toujours la même chose ou non?
Non, mais en fait, j'étais en train de réfléchir pour voir si on pouvait catégoriser par un grand type de période. Moi, je vais peut-être un peu plus insister sur l'actualité sociologique du Tour de France. Je vais faire des liens. La mobilité douce se développe de manière de plus en plus forte, ce qui fait qu'on est dans une logique où vous avez une population qui a recours au vélo, bon, des fois il peut être électrique, ça permet d'atteindre les vitesses similaires aux coureurs, mais dans cette logique, il y a une population de plus en plus grande qui se met au vélo, mais c'est pas pour autant qu'elle s'intéresse au vélo. Et je pense que sur une organisation du type Tour de France, dans la logique de la marque Tour de France, avec les instances supérieures telles que l'Union cycliste internationale, l'idée c'est de réussir à capter cette population et l'intéresser à ce sport. Si on fait une analyse sociologique des sports, c'est ce qu'a fait Pierre Bourdieu, par exemple, quand il essaye d'envisager à travers le capital économique, le capital social, quels sont les sports préférés en fonction des différentes catégories. Le vélo, c'est quelque chose qui est hautement populaire. Au même titre que le football. À l'opposé, vous allez avoir le golf, vous allez avoir le tennis, vous allez avoir les échecs. Et moi, j'ai tendance à penser que, bien qu'il conserve cette assise populaire, l'idée, c'est de valoriser le cyclisme pour que il soit envisagé de manière un peu plus active, un peu plus ambitieuse par la population des villes, plus uniquement celle des campagnes. Donc ça, pour moi, c'est un élément de transition assez important. Après, en termes d'organisation, c'est une machine monstrueuse, le Tour de France. J'ai plus en tête le nombre exact de partenaires, sponsors, marques techniques ou autres qui existent, mais c'est excessivement important. Dites-vous bien que, vous l'avez dit en entame, c'est l'événement sportif qui est l'un des plus regardés au monde, d'autant plus qu'il est totalement gratuit, et il est retransmis, j'imagine, dans à peu près 80 pays qui vont faire soit du direct, soit des résumés des différentes étapes. Et il y a aussi cette dimension d'internationalisation, internationalisation par la diffusion, mais également internationalisation à travers les coureurs. Maintenant, on est dans des logiques où il est difficile de dire il y a une équipe hollandaise, il y a une équipe italienne, il y a une équipe espagnole, il y a une équipe française. Les grosses équipes à l'heure actuelle, telles que la Jumbo-Visma, telles que UAE Emirates Teams, c'est des équipes qui sont une collection de coureurs qui viennent de différents pays. Donc on a une sorte de transnationalité au sein des équipes. Pour moi, c'est un élément marquant de l'évolution du Tour de France, cette internationalisation très forte.
Il y a comme l'idée d'essayer de rendre le Tour de France plus glamour, plus de tendance, c'est ça?
Il y a une volonté. Vous savez, je lisais des interviews de ceux qui pensent le Tour de France. Ils disent, Christian Prudhomme par exemple, que l'idée c'est d'éviter qu'il y ait deux jours de suite avec le même type d'arrivée. Hein, la hantise, c'est l'étape de plat où sur 200 km, bah, y a une échappée qui reste à 3 minutes et elle va se faire reprendre dans les 5 derniers kilomètres et ça arrive au sprint. Il s'est strictement rien passé. Alors on croise les doigts pour que cette étape passe à travers un patrimoine historique particulièrement intéressant, mais même avec, des fois, c'est long. Et donc l'idée, c'est d'avoir des arrivées en haut de murs relativement raides, donner un parcours un peu plus sinueux, arriver en montagne. Donc l'objectif de ce glamour, c'est de créer une dynamique de course qui va donner un intérêt plus grand.
Jean-Paul Vespini, c'est tout un art de dessiner le Tour de France chaque année.
Oui, je pense que là, honnêtement, il faut féliciter les organisateurs parce que c'est pas évident d'arriver à dessiner un tour où tous les jours il va y avoir des difficultés ou en tout cas quelque chose qui fera que les coureurs peuvent être inspirés pour attaquer. Parce qu'en fait, on connaît la maxime, c'est pas le parcours qui fait la course, ce sont les coureurs qui la font. Et on peut avoir de très belles courses sur des parcours peu vallonnés, et on peut avoir des étapes de montagne où, pardonnez-moi l'expression, on s'ennuie considérablement parce que les coureurs ont décidé que c'était pas dans celle-ci qu'ils allaient attaquer, mais dans la prochaine. Donc oui, je crois que sur le côté grandiose et machine de guerre énorme du Tour de France, les organisateurs sont au top. Je pense qu'ils essaient de concilier à la fois tout ce public qu'il faut satisfaire, l'intérêt de la course, et aussi ils arrivent aussi malgré tout, malgré cette grande machine, à arriver dans des zones plus, et c'est leur souhait aussi. L'exemple, cette année, ils ont réussi à faire rouvrir la route du Puy-de-Dôme qui était interdite. Mmh. On pensait qu'on monterait plus au Puy-de-Dôme, et puis vous voyez, ils vont y aller. Donc ça, ce côté-là, je pense qu'ils l'ont à cœur et ils essaient de le faire. Vous posiez la question tout à l'heure, qu'est-ce qui a changé dans le Tour depuis des années? J'allais être un peu provocateur et vous répondre: la langue. Parce que avant, sur le Tour, on parlait français, quelquefois un peu italien, souvent belge. Maintenant, on parle anglais. Et si vous ne parlez pas l'anglais, et si vous êtes journaliste, eh bien, vous êtes, comme on dit, obligé de demander aux confrères de vous faire la traduction, ce qui va considérablement l'énerver. Il y a donc ce côté-là. Le Tour est devenu, il y a des nationalités qui n'étaient pas présentes avant, qui sont là, qui ont des champions. Et c'est tout le grand changement, je crois, du Tour de France. Un autre changement, à mon avis, c'est la proximité, non pas du public et des coureurs, parce qu'elle y est toujours, cette proximité, même si c'est compliqué maintenant pour le public d'approcher de plus en plus les coureurs. Mais je crois que la proximité des coureurs et des journalistes, celle-là, elle a considérablement diminué, parce que les coureurs sont hyper protégés, ils sont réfugiés dans leur bus, et il faut beaucoup de volonté, de persévérance et de courage pour arriver régulièrement sur le Tour de France à rencontrer les coureurs. D'ailleurs, il suffit de lire la presse pendant le Tour de France pour s'apercevoir que il y a beaucoup de papiers très intéressants, mais il y a de moins en moins d'interviews. D'interviews à chaud.
Du courage, et je crois que Claude voulait souligner ce courage. Bonjour Claude. Claude, est-ce que vous êtes avec nous sur RCF? Eh ben, j'ai pas l'impression. Alors, je vais vous lire un mail de Florence, qui est fan du Tour de France. Elle en a de merveilleux souvenirs et elle nous dit: un bémol toutefois, je regrette que ce sport magnifique et très difficile soit entaché par le dopage. Pourrait-on revenir à des proportions plus humaines pour éviter que les coureurs cyclistes ne mettent leur santé en danger? Alors, le dopage, il va falloir qu'on en discute un peu, Gaël Guéguen, parce que avec ce qu'il s'est passé avec Lance Armstrong, qui a révélé avoir été dopé lors de compétitions de Tour de France, et d'ailleurs son palmarès a été supprimé par le Tour de France. Vous pensez qu'il y a eu un avant et un après?
Alors j'ai tendance à penser que oui. Après, sur la dureté de l'épreuve, bon, sans nul doute, c'est un élément qui peut inciter à la dérive. Mais vous savez, vous avez des sprinteurs de 100 mètres. 100 mètres, c'est court, c'est plat, il n'y a pas de difficulté. Et pourtant, là aussi, vous allez avoir du dopage. Moi, j'ai tendance à penser que ce qui va conditionner forcément le dopage, c'est la dimension de pression sociale. Je consultais l'ouvrage d'un repenti du dopage, un Anglais qui s'appelle David Millar, et il met ça en avant. En fait, je me dopais parce que tout le monde m'incitait à me doper, et donc je le faisais. J'ai tendance à penser que on est sur la bonne voie. Vous savez, les coureurs cyclistes, c'est des sportifs qui sont excessivement contrôlés, avec des innovations majeures, le passeport biologique, c'est-à-dire on sait depuis qu'ils ont commencé à être cyclistes leurs différentes données biologiques. Donc on voit s'il y a un écart qui ne pourrait pas s'expliquer par autre chose que par l'entraînement. Ils sont suivis en permanence, c'est-à-dire dès qu'ils sont quelque part, ils doivent signaler là où ils sont pour que si on devait procéder à des contrôles, bah, on puisse les identifier assez rapidement. Donc, moi, j'ai tendance à penser que par rapport à une période des années 90, des années 2000, on est plutôt en bonne voie par rapport à ça. On a une meilleure régulation, une meilleure compréhension et bien sûr, vous avez toujours des talents qui vont émerger, des talents qui seront plus forts que les autres, mais on peut avoir confiance dans la qualité de leur effort.
Jean-Paul Vespini, vous partagez cette analyse ?
Oui, tout à fait, je la partage. Effectivement, il y a eu de grosses erreurs et le cyclisme est devenu un sport très surveillé. Je crois même qu'on peut dire, sans qu'on dise qu'on est des passionnés, que c'est certainement le sport le plus surveillé parce que, comme disait Gaël, bon, on fait des prélèvements inattendus et donc le coureur doit signaler sans arrêt l'endroit où il se trouve. Vous savez, je voudrais vous rappeler une anecdote, c'est qu'on a sorti sur le Tour de France un maillot jaune à Pau, qui s'appelait Rasmussen, non pas parce qu'il s'était dopé, mais parce qu'il avait menti sur l'endroit où il se trouvait avant le Tour de France. Je me demande s'il y a un sport qui serait capable, j'imagine un 100 mètres ou une finale de Coupe du Monde, où on dirait, attention, d'ailleurs, il n'y a pas ces contrôles-là dans ces sports-là. Donc, vous voyez, oui, le cyclisme est devenu un sport propre, ce qui ne veut pas dire, malheureusement, qu'il n'y aura pas encore d'autres affaires, parce que c'est dans la nature humaine de vouloir tricher, comme c'est dans la nature humaine de la société. Donc, le cyclisme est un sport propre, un sport difficile, mais je signerai pas une feuille en disant qu'il n'y aura plus d'affaires. Sur les affaires précédentes, c'est ce qu'a dit Gaël, c'est-à-dire que, bon, j'ai eu la chance de côtoyer... que ce soit Richard Virenc, qui était un Provençal et qui a été au cœur de l'affaire Festina, donc l'affaire, la première grande affaire des années modernes de dopage, les années Armstrong ensuite, oui, il se dopait parce que les uns et les autres disaient « si moi je fais pas ça, je vais pas pouvoir suivre le rythme ». À l'époque, il y avait des coureurs qui dénonçaient ça, Christophe Basson notamment, qui était sur le Tour de France, qui le dénonçait. Bon, et nous autres journalistes, quelquefois, on était aussi, on doit faire notre mea culpa, pas forcément là pour dire il a raison. Moi, il y a une question qui me gêne, c'est quand on nous dit mais comment avez-vous fait pour ne pas vous en rendre compte? Eh bien, c'est la grande question, parce qu'on avait des doutes, on ne pouvait pas tout écrire, mais on voyait bien qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient, et je dirais qu'elles se passaient bien avant l'époque Armstrong. J'allais remonter aux champions d'avant, au champion espagnol d'avant, qui était un grand champion, mais où déjà on commençait à parler des années EPO, cette fameuse substance molécule qui faisait que les coureurs, les molécules qui faisaient que les coureurs ne sentaient pas la fatigue. Un coureur m'a dit, tu sais, lorsque je prenais le PO, je finissais le Tour de France presque aussi frais que quand je l'avais commencé, et lorsqu'il a arrêté et qu'il est revenu dans le Tour de France, il me disait, maintenant je fais une attaque, une seule attaque. Et après, c'est terminé. Pendant tout le Tour de France, je reste dans le peloton. Voilà. Mmh. Vous voyez, c'est pour vous situer un petit peu l'intérêt qu'avaient certains coureurs à aller vers cette molécule parce qu'elle était un peu miraculeuse. Ce qui donnait des excuses et pas du tout.
On arrive à la toute fin de cette émission. Alors, je voudrais vous demander à tous les deux de répondre très rapidement à ma dernière question. Le 1er juillet prochain, le Tour de France partira de Bilbao. Donc, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle édition de la Grande Boucle, Jean-Paul Vespini?
Eh bien, je voudrais que il y a de beaux champions actuellement, et on va donc voir s'il y a confirmation. Je voudrais assister à de belles bagarres en montagne, et je souhaiterais que un jeune, puisse se révéler, et que ce soit aussi une façon pour le public de s'intéresser au Tour de France à travers ce jeune. J'ai pas d'idée, j'ai pas de nom, mais ça serait une belle édition.
Gaël Guéguen, vous en attendez quoi, Gaël Guéguen, vous en attendez quoi? Trois mots.
Un jeune français.
Un jeune français. Et ben voilà, c'est noté. Merci beaucoup Gaël Guéguen d'avoir été avec nous, Jean-Paul Vespini. On mettra les liens vers vos livres et articles sur la page de l'émission. Et c'est pas fini le vélo, hein,
non,
chez vous.
Non,
hein,
c'est pas fini. Et moi, je vous invite, si vous avez Netflix, allez jeter un petit coup d'œil à cette série. Ça peut peut-être vous donner envie de regarder pour la première fois cette année le Tour de France. C'est certainement ce que je vais faire après avoir regardé cette série. Comme la Formule 1 d'ailleurs. Bon, allez, dans un instant, le cyclisme au féminin. Et oui, parce qu'il va y avoir le Tour de France féminin pour sa deuxième édition. Peut-être que je vous l'apprends. Et ben moi, je l'ai découvert cette semaine, justement, en préparant cette émission. On va en discuter dans un instant avec nos deux invités ES et avec vos appels au 04 72 38 20 23. Tout de suite.